voudrais vous raconter l'histoire de l'écriture, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui cherche à écrire quelque chose de difficile. Elle cherche à dire quelque chose qui est dur à entendre, que peut-être nous ne voulons pas entendre. Peut-être d'ailleurs que cette chose, on ne peut pas la dire vraiment. Qu'on ne peut qu'échouer à la dire, mais que justement, il faut essayer, essayer encore, et que c'est ainsi que le livre prend forme, que le livre prend corps, qu'il commence à se tenir. Au fond, si on pouvait le dire, est-ce qu'il y aurait un livre ? Alors, elle essaye, elle cherche, elle écrit des phrases, et des pages, mais ce n'est pas ça, ce n'est toujours pas ça. Et puis un jour, il y a cette phrase. Cette phrase qui donne le « là ». Voilà, ce sera la première phrase. Cette note, maintenant, il va falloir la tenir. Et c'est ça qui va faire le livre, que la note soit tenue. Que tout le reste suive, comme nécessairement, comme impérieusement. Qu'il y ait quelque chose d'implacable dans la manière dont le reste suit. Ça se joue à rien, finalement. Que cette note soit tenue ou qu'elle ne le soit pas. Mais c'est peut-être ce rien qui fait la littérature. Cette note tenue, cette cohérence, cette fidélité, pourrait-on dire. On dit souvent d'un auteur, d'une auteure, qu'elle a une voix, reconnaissable entre mille. Mais elle a aussi une oreille. Autrement, comment saurait-elle si la note est tenue ? Et son oreille est sa boussole jusque dans la solitude, sa boussole jusque dans l'incompréhension, sa boussole jusque dans le vacarme des opinions et des discours, jusque dans le tumulte de la communication. Bien sûr, parfois, elle doute, comme tout le monde. Au fond, que peuvent vraiment les mots ? Que peuvent vraiment les livres ? Peuvent-ils consoler ? Réparer ? Le doivent-ils ? Peuvent-ils plus précisément dire le réel, nous permettre de l'entendre, d'entrer simplement en contact avec lui, de le toucher, de le sentir ? Et si la littérature nous permettait, quand la note justement est tenue, de comprendre cela même que nous avons du mal à expliquer ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Christine Angot, écrivaine, romancière, dramaturge, prix Médicis pour son dernier roman, Le très puissant Voyage dans l'Est. Christine Angot, auteure d'une vingtaine de livres, qui nous a rejoints sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle et difficile question : que peuvent vraiment les mots ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Christine Angot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce matin de fin du mois d'août. Alors, je vais vous poser la question un peu frontalement. Que peuvent les mots ?
Bah écoutez, moi, je crois qu'ils peuvent tout. Vraiment. Enfin, ça dépend, évidemment, dans quelles conditions, dans quel contexte ils se présentent. Si c'est dans la conversation, si c'est à table, si c'est dans la rue, si c'est dans la littérature. Et je pense que dans la littérature, les mots peuvent tout, disons, ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire dire ce qui est, dire le réel, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction.
Mais vous pensez que tout le réel peut être dit ?
Alors, en fait, plus exactement, ce que vous avez dit, c'est permettre de toucher le réel, de le sentir. Plus que de le dire, parce que, oui, c'est indicible et ça reste indicible. En revanche, c'est, ça n'échappe pas à la sensibilité.
Oui.
Ça n'échappe pas au sens, ça n'échappe pas à l'oreille. Ça n'échappe pas à la vue. Hein. La littérature, ça se voit aussi. Hein. C'est-à-dire que la phrase convoque des sensations qui sont multiples hein, aussi. Vous avez parlé de toucher aussi. Donc ça, c'est des sensations. Et cette sensation-là, quand elle se produit... quand elle prend forme à travers une, par le moyen d'une phrase écrite, c'est pas les mots tout seuls, hein, c'est les mots dans une phrase écrite, ponctuée. Il y en a une avant, il y en a une après, il y a un paragraphe. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui se rejoignent. Et à ce moment-là, il n'y a pas de malentendu, vraiment. Il n'y en a aucun.
ce qui est troublant dans ce que vous dites, c'est que vous racontez dans ce livre, votre dernier livre, Le Voyage dans l'Est, paru chez Flammarion, c'est celui qui a eu le prix Médicis. Vous revenez sur l'inceste dont vous avez été victime, que vous aviez déjà évoqué dans beaucoup de livres, évidemment dans l'inceste, dans Un amour impossible, dans Une semaine de vacances, et vous y revenez, et finalement, c'est ce sujet-là. Mais à la limite, même avec un autre sujet, on aurait pu être confronté à un indicible qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qu'on peut comprendre, qu'on peut sentir, alors qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Alors évidemment, sur ce sujet-là, ça s'y prête, puisque c'est inexplicable, puisque l'interdit de l'inceste est au fondement de la civilisation. Donc on a beau essayer de tourner autour, on a beau essayer de se dire, oui, il y a quelque chose peut-être dans notre société qui finalement autorise le franchissement de cet interdit, autrement il ne serait pas autant franchi, mais ça reste inexplicable. Donc finalement, avec cet inexplicable-là, vous en faites une matière littéraire qui permet de comprendre que peut-être l'objet de toute littérature, c'est l'inexplicable, mais qu'on peut quand même toucher, sentir, comprendre.
Je comprends ce que vous dites. Disons que ce qu'on peut faire avec la littérature, et qu'on ne peut faire que avec la littérature, parce que prenons cette question de l'inceste, qui s'inscrit dans le registre de l'humiliation, d'une manière générale, qui fait partie de multiples stratégies d'humiliation, d'asservissement des personnes entre elles. Bon. Donc, c'est pas isolé. C'est pas une chose isolée dans la société, c'est une chose courante, qui peut prendre différentes formes, l'humiliation. Et ça peut prendre la forme, bien sûr, de l'inceste, qui provoque de l'humiliation, de la relégation, etc. Et ça, toutes ces notions-là ne s'expriment à travers différentes, d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et en général, on en parle. C'est pas du tout des choses dont on évite de parler, en fait. Hein. Mais on en parle toujours sur la forme du décryptage d'un système. Bon. Autrement dit, d'une manière assez froide. Bon. Et on oublie que ça concerne des personnes, que les systèmes n'existent pas vraiment. Les systèmes, oui, on les repère, comme on repère des lignes droites dans un paysage de campagne ou de ce qu'on veut, on peut repérer des lignes droites, des lignes horizontales. Hein, mais on n'a pas le paysage, on ne voit pas le paysage si on fait uniquement les lignes droites. Eh bien, avec le décryptage, avec le système, c'est exactement la même chose. On voit des lignes de force, des horizontales, des diagonales, tout ce qu'on veut, mais les personnes ont disparu, les personnes n'y sont plus. Alors que dans la littérature, eh bien, ce sont les personnes qui sont là.
Hein, bien sûr.
Voilà. Et c'est pourquoi on peut, on a envie de lire, parce que soi-même, on est une personne, et donc on s'adresse en même temps à une personne.
Mais paradoxalement, je comprends bien ce que vous dites. Ça permet aussi, parce qu'on s'est identifié à des personnes, parce qu'on a senti des personnes vivantes singulières, aussi de comprendre le mal qu'un système peut faire.
Bien sûr. Ah bien sûr. Ah non, mais je ne dis pas que ça exclut, bien au contraire. Ce que je dis, c'est que ça ne laisse pas à travers le personnage, à travers les personnages, on inclut les personnes. Alors que dans le décryptage purement du système, oui. Eh bien, bien sûr, on comprend. Mais oui. On oublie la singularité. On oublie que chacun, que les résonances, on oublie tout ça.
Ouais.
Et c'est pourquoi on se sent. Après, on fait des statistiques. Et donc, évidemment, de nouveau, on est humilié. Parce que la statistique humilie. Ah, ok, je suis un chiffre. Ah, ok, je suis dans 10%. Pas les 10% du film.
Ouais, j'ai compris.
Pas celui de la série, hein, c'est beaucoup moins prestigieux que ça.
Les 10% de victimes.
C'est pas ces 10% là, hein. C'est pas les 10% artistiques, hein. Non. C'est les 10% du ratage. Donc c'est pas vraiment glorieux. Et donc on récupère d'une autre manière, dans un sens, il y a une forme de déshonneur pour le. Aussi pour une autre raison. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le décryptage? Souvent, le décryptage est réalisé à partir de ceux qui prennent la parole en tant qu'ils savent décrypter et qui sont donc sujets de parole. Et ils le font à partir d'observations de gens dont on considère qu'ils n'ont pas la parole, qu'ils ne peuvent pas parler, ou en tout cas, qu'ils ne peuvent pas décrypter, et qui sont les objets. Et en fait, on se rend compte que... Enfin, moi, j'ai pensé ça... Ça me paraît clair que, particulièrement pour toutes les histoires, toutes les questions qui sont liées à l'enfance ou au féminin, les enfants, les femmes, pas seulement, hein, mais en tout cas les enfants, les femmes, c'est rare qu'on leur accorde en même temps d'être sujet et objet. C'est plutôt les objets. Et puis il y a des sujets, des experts, des historiens, des sociologues, des philosophes qui expliquent ce qui se passe. C'est rare qu'on considère qu'une même personne puisse faire les deux, puisse être à la fois sujet et objet.
Et donc c'est cette attention aussi à la singularité, à la position de sujet qui, de quelqu'un à qui on a empêché de, qu'on a empêché de parler, puisque finalement c'est aussi ça qu'un père incestueux fait à sa fille, c'est quelque part l'empêcher de parler, puisque le langage est attaqué, puisque même le mot papa, le mot père est difficile à entendre quand on est victime de l'inceste,
Bien sûr.
C'est le premier mot qui est comme vidé de sa vérité et de sa substance.
Oui, c'est à ça, c'est aussi à ces mots-là qu'on s'attaque naturellement, c'est-à-dire au premier mot que l'enfant, que le tout jeune enfant est censé prononcer.
C'est là qu'on comprend que c'est un crime contre l'humanité, au fond, et contre la civilisation même, puisque le langage est au fondement de cette civilisation.
Bien sûr.
Et on comprend peut-être pourquoi vous pourriez être agacé par des mots valises, comme « la parole se libère », des mots qui sont finalement d'abord trop généraux.
Ce sont des slogans.
On pourrait se dire « quelle parole, justement ?» Et que, justement, dans vos livres, vous reprenez quand même la parole. Votre parole.
En fait, je crois qu'on... Faut essayer d'être un tout petit peu... Comment dire ? Dit la parole, on est... vous est retirée, dans un cas d'inceste, par exemple. Le père empêche de parler. Est-ce qu'il empêche de parler ? Est-ce qu'il empêche de parler ? Est-ce qu'il ne peut pas, au fond, s'amuser ? On est dans la grande perversion. Donc, jouir d'une certaine manière. Donc, de toute façon, vous pouvez toujours le dire. Vaut mieux ne pas. Mais vous pouvez le dire, il récupérera toujours. Il niera, ça l'amusera, ça, il passera entre les gouttes. Voilà. Donc, la personne qui s'empêche de parler... c'est la victime elle-même. Pourquoi ? Par une sorte de réflexe, parce que, en fait, pour parler, ou pour écrire, c'est aussi... Il y a une chose qui est essentielle, c'est que vous ne pouvez pas parler dans le vide. Ça ne sert à rien. Et puis, non, ce n'est pas seulement que ça ne sert à rien, d'ailleurs. C'est que les mots ne se forment pas, bizarrement.
Ce que vous racontez. Hein. Les mots restaient au fond de votre gorge, dites-vous.
Oui.
Ils ne sortaient pas. Mmh. Vous avez essayé à plusieurs reprises. Mmh. Vous êtes allé au commissariat. Mmh. Mais on vous a dit qu'il y avait un risque de non-lieu. Ça vous a glacé. Mmh. Vous avez essayé de parler à plusieurs reprises à votre mère. Mmh. Les mots restent au fond de la gorge.
Oui. Alors, parce qu'il y a une difficulté, en effet, de la part de l'extérieur à entendre, mais pas seulement. Je pense aussi que c'est une forme de protection de... On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas traverser des épreuves aussi difficiles que l'inceste et les exprimer. C'est juste pas possible. Et si ne pas parler était, surtout pour quelqu'un qui est enfant ou adolescent, hein, oh là là, je me mets dans ma... Ok, je vais me faire un petit abri là, je vais pas parler, hein, et puis on verra plus tard. Ce qui est...
Quand je serai grand.
Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire, exactement. Et ça c'est très important parce que si vous voulez, je vais grandir plus tard, quand je serai grand, quand je serai grande, pour un enfant, c'est très important. Ça existe, vraiment. Il va se passer des choses. Là, c'est compliqué, c'est vrai. Et ma vie est en... Il y a un problème, là. Je suis inquiète pour ma vie, pour mon avenir, pour ma vie amoureuse. Mais plus tard, ça existe plus tard. Donc ça, c'est l'espoir de l'enfant, de grandir. Et donc, on verra plus tard. Pour l'instant, on se contente de survivre.
Le drame étant, évidemment, que par ce crime, qu'est l'inceste, le plus tard est entamé et est entravé.
Absolument. Est en danger. Absolument. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut le traverser.
D'ailleurs,
c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des choses à traverser.
D'ailleurs, c'est exactement ça. Vous avez enfant, vous le dites très bien dans ce roman, hein. On verra après pourquoi ça s'appelle roman, Le Voyage dans l'Est, que quand vous voulez parler à votre père, c'est pas pour lui dire c'est mal, c'est pas si précis, alors qu'évidemment c'est mal, c'est pour lui dire c'est dangereux. Vous sentez que c'est dangereux, alors qu'il y a un doute pour vous, parce que vous êtes enfant, parce que vous avez une perte de repères liée à cet inceste, il y a un doute sur le fait que c'est mal, même si à l'évidence ça l'est.
Non, c'est pas ça. C'est que quand vous parlez à quelqu'un, vous, à partir du moment où lui, sur la question du bien et du mal, vous savez que c'est pas du tout sa question, voilà, vous, même un enfant parle à son parent, père ou mère, avec des arguments qui peuvent le toucher. Bon, or, le bien, le mal, mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi pas la religion, tant qu'on y est? Donc non. En revanche, le danger, la notion du danger, vous pensez qu'elle peut être perceptible.
Merci
même,
beaucoup, Christine.
Même par lui.
Ouais, c'est ça, on comprend bien cette distinction entre le mal et le dangereux. On va écouter The Dealer.
I need some time to work out.
sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Christine Angot et nous parlons notamment de son dernier livre, Le Voyage dans l'Est, qui a reçu le prix Médicis. Christine Angot, avant ce moment de musique, vous parliez de cette résonance des mots. On avait vu ensemble cette idée qu'on ne peut pas tout expliquer dans la vie, mais on peut peut-être toucher les choses, les comprendre. Et je sais que vous aimez beaucoup les lectures publiques. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez un texte de différent par rapport au moment où vous l'avez écrit ou par rapport au moment où vous le lisez silencieusement ?
Alors, d'abord, le texte est écrit. Ouais. Quand je l'écris, je suis en train de l'écrire. Et il y a plein de choses à corriger, etc. Bon, là, il y a souvent un montage à faire et il peut y avoir une adaptation, mais disons que le texte est là. Et pendant que j'écris, les gens sont là aussi. Ils sont pas là physiquement, ils sont pas là en présence, mais j'y pense, de toute façon. Et là, il y a quelque chose qui se dit en même temps, c'est une sorte d'adresse, quoi, de partage, on pense en même temps, on est ensemble, en direct, en train de ressentir les mêmes choses et d'être dans la littérature. Et ça, c'est un espace où on est tellement bien et qui n'a jamais lieu dans la vie, parce que normalement, c'est seul. Et là, on est ensemble dans ce lieu imaginaire de la littérature. C'est ça qui se passe dans une lecture.
Ça vous est arrivé dans ce lieu, donc, soudain, d'entendre quelque chose de vraiment nouveau de votre propre texte ?
Ça ne me vient pas, là, comme ça.
Oui, vous les connaissez quand même bien. Et bien justement, je vous propose de vous écouter lire le début du Voyage dans l'Est.
J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer. L'immeuble faisait environ 4 étages. Devant, il y avait quelques places de parking. On entrait par une porte vitrée. La réception se trouvait sur la gauche. Il y avait un ascenseur au fond. Un escalier en bois avec un tapis qui parcourait les marches et assourdissait les pas. La façade était plutôt moderne. La pierre blanche. Il y avait des bas-reliefs de forme géométrique, je crois. C'était pendant les vacances d'été. J'avais 13 ans. Je venais de finir ma 5e. Ma mère avait eu l'idée d'un voyage dans l'est de la France. On a quitté Châteauroux au début du mois d'août. On s'est arrêté à Reims, à Nancy et à Toul. On est arrivé à Strasbourg un jour de semaine, en fin de matinée. Ma chambre se trouvait au 2e étage et donnait sur la rue. Celle de ma mère à l'étage du dessus, dans la partie latérale. La mienne devait être à l'est ou au sud-est, car il y avait une très forte lumière. Le papier peint était jaune. J'avais ma salle de bain, mes toilettes. Ma mère et moi partagions habituellement la même chambre. Mon père avait fait la réservation la veille et téléphoné. Elle me l'avait passée. J'avais éclaté en sanglots en entendant la voix. J'étais assise sur le lit, anxieuse. On a frappé à la porte. Ma mère est entrée. Bon, il vient de m'appeler, il sort de son bureau, il sera là dans 20 minutes. Tu préfères l'attendre ici ou en bas dans le hall ? Ici. Je me suis mise devant la fenêtre. Mon cœur battait. Qu'est-ce qu'il a comme voiture ? La dernière fois, il avait une DS, ça fait un certain temps. Il a dû en changer depuis. De quelle couleur ? Alors ça, bleu peut-être ? Je n'avais pas de souvenir de lui. Je n'exprimais pas le désir de le rencontrer. Je répondais qu'il était mort quand on me demandait où il était. « Reste pas là-bas, Christine. Viens, viens t'asseoir à côté de moi. » J'avais vu une seule photo de lui, elle datait d'avant ma naissance. Il portait une chemise blanche rentrée dans un pantalon ceinturé. Il était mince, il avait les cheveux bruns, des lunettes. La figure masculine de mon enfance était mon oncle. Je lui avais offert une année le cadeau fabriqué à l'école pour la fête des pères. Un étui à peigne en sky qui se glissait dans la poche d'une veste. Parce qu'il aimait s'habiller et se parfumer, et que je n'ai pas osé l'envoyer à mon père. En le lui donnant, j'avais été gênée. Je ne l'ai jamais vu l'utiliser. Mon grand-père venait à Châteauroux une fois par an. C'était un juif d'Europe centrale né à Alexandrie qui parlait 10 langues. Les relations entre ma mère et lui étaient très difficiles. Il y avait peu d'hommes dans mon entourage. Les rapports étaient lointains. Les conversations limitées à la politesse. Les commerçants, les pères de mes copines, tous mes professeurs étaient des femmes. Je fréquentais l'établissement privé de la ville. Les pères attendaient leurs filles à la sortie le samedi. Je les apercevais de loin assis au volant de leur voiture, la plupart du temps une déesse, ou j'en croisais un, dans le couloir d'un appartement, quand j'étais invitée à un anniversaire. On a frappé à la porte. Mon père est entré. L'image que j'avais élaborée, à partir de la photo que je connaissais, ne correspondait pas à la réalité. Je n'avais vu ce genre d'homme qu'à la télévision ou au cinéma. L'allure élégante et décontractée, pas de cravate, le pli du pantalon retombait sur le bout de la chaussure, les cheveux étaient très noirs, un peu longs sur la nuque, une mèche sur le côté. Je me suis jetée dans ses bras, en pleurant, la respiration hachée par les sanglots. « Je suis contente de te connaître. Je pleure, mais c'est parce que je suis contente. Je suis contente. » « Moi aussi, Christine. » Il a refermé les bras sur moi. Ma mère a posé une main sur ma nuque et m'a dit des paroles rassurantes. La pièce était remplie de lumière. Il avait réservé une table au buffet de la gare qui figurait dans le guide Michelin et faisait des spécialités alsaciennes. « Tu aimes la choucroute ?»« Pas tellement, non. Je vois que tu as de la personnalité, en tout cas. » Ma mère a dit, l'œil brillant, le coin de la lèvre légèrement relevé. « Elle a de qui tenir, Pierre ?» Il a souri. Le sourire était très particulier, les lèvres fines et très étirées.
Merci beaucoup Christine Angot, c'était le début de votre livre « Le voyage dans l'Est ». Merci pour cette lecture que vous nous offrez. La première phrase, c'était « J'ai rencontré mon père dans un hôtel à Strasbourg que je ne saurais pas situer ». Donc comme vous l'aviez deviné, c'est cette phrase que j'avais en tête au début de l'émission quand je disais « Voilà, il y a un moment on trouve la note, un peu comme un musicien ou peut-être comme un peintre, et il faut la tenir ». C'est vrai que moi j'ai eu ce sentiment, j'ai pas pu le lâcher, qu'elle était tenue. Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on arrive à entendre, justement, des choses qu'on ne pourrait peut-être pas entendre, qui sont franchement parfois insoutenables, c'est-à-dire ce que va faire votre père juste après. Il faut expliquer quand même, pour celles et ceux qui n'ont pas lu, que vous le rencontrez pour la première fois parce qu'il a décidé de vous reconnaître.
Non, il n'a pas décidé, il a accepté. À force de demande de ma mère.
Mais le problème, enfin plus que le problème, c'est qu'il va donc vous reconnaître et en même temps trahir, invalider presque,
oui,
cette reconnaissance en commençant cette relation incestueuse. Et on se demande souvent, quand on lit, en fait, comment c'est possible. C'est un interdit de la civilisation. Et finalement, on voit un homme qui ne se met jamais à votre place, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de culpabilité. Qui aussi, par ailleurs, vous apprend des choses, qui est d'une classe sociale un peu supérieure, on pourrait dire, en tout cas, qui le vit comme ça.
Oui.
Et donc, on voit quand même que quelque chose l'autorise, au fond. Quelque chose l'autorise à enfreindre l'interdit majeur de la civilisation. Alors, c'est ça qui est troublant. Et quand on pense aux chiffres que vous évoquiez, que tout le monde connaît, hein, 1 enfant sur 10, c'est-à-dire quand on va à une fête de l'école en CM2, il faut regarder les enfants et se dire que 1 sur 10 est victime d'inceste, c'est effarant. On se dit, en fait, il y a un problème dans cette civilisation. Il n'y a pas que des individus. Il n'y a pas que des individus pervers isolés. Il y a un problème de civilisation, un problème de société,
oui.
Au fond. Autrement, il n'y en aurait pas autant.
Ah, c'est clair.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il faut être clair. Voilà. Mais est-ce qu'on peut être clair avec certaines choses? Par exemple, dans tout ce que vous venez de dire, ce que vous impliquez et ce que ça signifie tout ça, c'est que c'est pris dans... une chose qui règne, hein, qui est la relation d'autorité, la relation de pouvoir, bon, qui fascine tout le monde, je dis bien tout le monde, qui attire, qui c'est ça, quoi, qui séduit. C'est plus, on est fasciné par ça. Donc, à partir du moment où c'est ça, où c'est la question du pouvoir dans notre société, qui règle, qui donne la note, justement, parce que vous parliez de note juste, bon, à partir du moment où ce qui règle notre société, que la note dans notre société est réglée par la question du pouvoir...
Il y aura donc de l'abus.
Ben, bien sûr. Pourquoi il n'y en aurait pas? À partir du moment où il y en a qui sont attirés, fascinés par le pouvoir, je ne vois pas... Enfin, je vois, mais il faut quand même un certain effort, une certaine clarté d'esprit, une certaine conscience des choses, pour se dire, ok, là j'ai la possibilité d'abuser, mais j'ai une règle, et je ne le fais pas. C'est tout. Tout le monde connaît ça, de sentir qu'on pourrait abuser d'une capacité qui se présente à soi. Tout le temps.
Surtout quand il y a très peu de ces crimes qui sont punis.
En plus. Ça... Mais je veux dire que même à un tout petit niveau, chacun peut éprouver à l'intérieur de soi des facilités qu'on aurait d'abuser de la crédulité, de la faiblesse, de la confiance d'un autre. Bon. On ne le fait pas. Parfois on le fait, mais on s'en veut. Mais donc c'est exactement la même chose.
Vous dites... C'est dur d'être clair parce qu'on a tous cette fascination pour le pouvoir. Deux remarques par rapport à ça. Il y a un livre assez intéressant de Manon Garcia qui s'appelle « La conversation des sexes, philosophie du consentement » où elle montre que peut-être on pourrait ouvrir une perspective nouvelle où autre chose serait érotique ou excitant que les rapports de domination. Bon, ça c'est la voie d'espoir. Et puis par contre, vous dites on peut être clair. On peut pas être clair, mais peut-être qu'on peut être clair sur une chose quand même. C'est qu'il n'y a jamais de consentement dans une relation incestueuse, même quand on est majeur. Là, on peut être clair là-dessus.
Contrairement moi, je le suis.
Je sais.
Très, très clair là-dessus. Voilà. Et j'ai été particulièrement... Enfin, j'ai été... C'est pas été choquée, j'ai été scandalisée. Mais scandalisée. Au détour de la publication du livre de Camille Kouchner, quand... le gouvernement, par la personne du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, pour suivre le mouvement qui a été enclenché par la publication de ce livre, qui a été suivi de déclarations, d'associations, de pétitions, de toutes sortes de... Enfin, dans des journaux, etc., disant « oui, il faut ». Qui est une protection contre les abus en cas de viol et d'inceste. Sauf que ils ont confondu complètement la question de l'inceste et la question du viol, qui est quand même différente. Violer un enfant, c'est une chose. Commettre un inceste sur son enfant, c'en est une autre. Le viol incestueux, c'est le viol incestueux. On ne peut pas confondre.
Oui, parce qu'auparavant.
Avec le viol. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc la question des 10 fameux 18 ans ne peut pas opérer. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas de consentement possible après 18 ans qu'on pourrait plaider en justice. Pour moi, c'est extrêmement clair. Pour eux, non, ça ne l'est pas. Je pense que ça peut se plaider en justice.
Oui, vous évoquez d'ailleurs le fait que Dupond-Moretti lui-même ait plaidé cela par le passé.
Voilà. Alors, il était avocat. Donc moi, je veux bien qu'un avocat défende des choses indéfendables pour tenter le tout pour le tout par rapport à ses clients. Ok. Admettons. Ça fait partie d'un métier. Mais quand on est ministre de la Justice, c'est un autre métier. Et pourtant, il y a tellement de confusion, voyez, dans notre société aujourd'hui sur les interdits, peut-être, en tout cas sur certains interdits, et sur celui-là, c'est ça aussi qu'il faut bien voir. Hein. C'est que si cette loi a pu passer sans encombre, c'est pas Dupond-Moretti tout seul, hein. C'est parce qu'il y a une confusion générale.
Oui, c'est parce qu'il y a aussi un problème qui n'est pas un problème individuel, mais qui est un problème social, voilà. Un problème lié à la structure même de cette société, de cette civilisation qui prétendument devrait chérir cet interdit en son cœur et qui finalement échoue à le faire. On en reparle juste après.
Soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous avons toujours le plaisir d'être avec Christine Angot et nous revenons sur le pouvoir des mots, le pouvoir de la littérature. Merci encore Christine pour cette belle lecture que vous nous avez offerte du début des premières pages du Voyage dans l'Est. Revenons à votre écriture. Moi, je vous lis depuis plus de 20 ans. J'ai toujours une impression de vous comprendre. Ça a pas, j'ai parfois été un peu seul. Hein. Puis, ah bon, après, les choses ont le vent a tourné. Vous avez eu quand même beaucoup de reconnaissance. Hein. Vous avez eu le prix France Culture, vous avez eu le prix Décembre, vous avez eu le prix de Flore, vous avez eu le prix Médicis. Donc,
faut pas oublier le prix des Inrecuptibles.
Oui, pardon. On s'est retrouvé moins seul avec le temps. Et je me suis souvent demandé. Par rapport aux scènes de sexe, pourquoi elles étaient si précises? Pourquoi elles étaient si longues? Parfois, elles sont longues. et soudain, j'ai compris, et je reconnais ma limite. Hein. Mm-hmm. Je crois que je l'ai compris que dans le dernier. Mm-hmm. Alors, je marche sur des œufs, mais dites-moi si j'ai raison. Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est des scènes de sexe normales, en fait. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas normales. Et donc, pour qu'on comprenne qu'elles sont pas normales, il faut qu'elles soient longtemps normales, et qu'on oublie, parfois, que c'est un père et sa fille.
Parce exactement.
Parce qu'au fond, si c'était pas un père et sa fille, bah, il y aurait pas grand-chose. Mais comme c'est un père et sa fille, c'est pas possible. Donc si vous ne l'écriviez pas longtemps, on n'aurait pas le temps de le comprendre, en fait.
Alors ça, on le voit surtout dans Une semaine de vacances.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est vraiment dans Une semaine de vacances, puisque le début, au début, de, pendant au moins cinq pages, on ne sait pas, on a un personnage féminin, un personnage masculin, et on ne connaît pas la nature de leur lien. Et donc, on est embarqué là-dedans, etc. Et pourquoi pas même un peu excité, on peut ne pas se l'interdire si ça, éventuellement. Et puis, à un moment, il y a un effroi, parce que il y a un indice qui commence à faire penser que ça pourrait bien être un père et une fille. Et donc là, il y a une espèce enfin, le lecteur se retrouvait très mal à l'aise de ne pas l'avoir identifié. Et au fond, exactement, justement, comme ça c'est bien ça qui se passe, hein, qu'on n'identifie pas ce qui se passe. Et alors après, je ne sais... Enfin, je crois que les scènes de sexe que j'écris... Parce que ça peut aussi parfois être des scènes de sexe qui sont entre un homme et une femme qui ne sont pas liées par un lien de parenté, naturellement, entre deux personnages qui n'ont pas ce... Il y a aussi entre deux femmes, dans l'inceste par exemple. Mais en fait... Quand vous dites « elles sont normales », oui, elles sont normales, c'est-à-dire elles décrivent les choses. Il n'y a pas de commentaires, très peu, de la narratrice. C'est juste décrit sans coucher de soleil, sans toutes les choses qu'on met habituellement. Habituellement, il y a toujours un commentaire dans la littérature, d'une manière ou d'une autre, sur les scènes sexuelles. C'est-à-dire, c'est romantisé, soit c'est au contraire trash, il y a toujours quelque chose...
Soit c'est métaphysique, soit il y a un...
Voilà, toujours. Il y a toujours quelque chose de l'ordre du commentaire de la part de celui qui écrit. Et moi, il me semble que le commentaire, d'une manière générale en littérature, c'est pas possible. L'auteur doit disparaître. Vraiment. On ne doit pas du tout le sentir. On doit...
Never explain, never complain. C'est ça?
Mais oui, il ne doit pas être là, l'auteur. Juste la scène, c'est la scène qui doit être là. Donc si on sent son commentaire, ça ne va pas. Le lecteur ne pourra pas faire son propre commentaire.
C'est le contraire de l'idée habituelle du narrateur omniscient qui sait tout et qui explique les choses, quoi.
Narrateur omniscient, il peut se faire discret, hein, parce qu'il peut avoir une vision comme ça qui est un peu, justement, un peu au-dessus, et il voit comme ça, mais qu'on ne pense pas à la personne de l'auteur. Le narrateur, oui, mais l'auteur, dès qu'on sent, tant que la phrase semble avoir été... Tant que le lecteur se dit, ok, c'est le narrateur qui me parle, tout va bien. Narrateur, la narratrice, ok. Mais si tout d'un coup, on sent derrière le narrateur un auteur... Une personne, ben non.
Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas de la littérature au sens où vous l'entendez. Ça peut être une prise de position, par exemple, à l'ami.
Alors, voilà. Si c'est ça, mais si on est dans un roman, il y a quelque chose de l'ordre de la petite morale du commentaire, et ça ne va pas.
Ouais, je comprends.
Ça ne va pas.
Cette intimité, vous proposez au lecteur quand même une forme d'intimité, c'est-à-dire que vous proposez quelque chose que le lecteur rentre. Dans une intimité qui est assez radicale. Tous les auteurs ne font pas ça. Est-ce que c'est pour vous une manière de rétablir un rapport intime avec un autre, presque pour effacer le rapport intime pathologique que votre père vous a imposé? Est-ce que c'est une manière de dire, voilà, je reprends le pouvoir et il va y avoir cette intimité-là que je crée avec le lecteur qui, quelque part, toi, t'efface un peu?
Toi, c'est-à-dire...
Toi, mon père.
Non.
Non, il n'y a pas ça.
Oh non, non. Ah non, non. Non, non. Ça, vraiment, non. Et pour moi, il n'y a pas de prise de pouvoir du tout. En fait, écrire, pour moi, c'est pas du tout, du tout, du tout une prise de pouvoir. Et même, et d'ailleurs, les littératures qui fonctionnent comme des prises de pouvoir, parce que ça peut absolument être le cas, et ça n'empêche pas que ce soit de la littérature, moi, ne me plaisent pas.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je ne crois pas que je vais donner des exemples. Je ne crois pas que je vais donner des exemples.
Alors, mais... on va écouter justement quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Peut-être qu'il a pris.
Il n'y a pas d'écriture qui vous laisse le temps de vivre. Ou bien il n'y a pas d'écriture du tout. Puisque ce que vous mettez dans le livre, ce que vous écrivez, ce qui sort de vous, ce qui en passe par vous plutôt, puisque c'est ça en définitive le plus important de tout ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Si vous faites l'économie de ça en faveur de la vie vécue, vous n'écrivez pas.
C'est radical hein, ce que dit Duras.
En fait, je ne sais pas si c'est radical, c'est juste une description. Elle décrit ce qu'elle sait, elle décrit comment ça se passe pour elle, et donc tout court, puisque elle décrit son expérience. Elle ne le dit pas, elle ne dit pas c'est mon expérience, mais voilà, elle dit ce que c'est.
Et vous le vivez pareillement ?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit là. Oui, là j'étais d'accord sur tout, oui.
Jamais vous n'êtes tenté de mettre en retrait l'écriture pour que la vie simplement vécue prenne plus de place ?
Alors je vais vous dire une chose, malheureusement, l'écriture elle se met en retrait quand elle veut. Hein. C'est pas moi qui décide. Moi si elle pouvait être là tout le temps, à ma disposition, dans ma poche, et que j'avais qu'à sortir un stylo ou un ordinateur, pour je vivrais dedans en permanence. Hein. Voilà, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Elle a son temps, hein. Elle a ses heures, elle a ses périodes. Hein. Elle est pas là comme ça, disponible. Hein. C'est pas une source à laquelle on peut boire comme ça quand on veut. Hein. Non, non, pas du tout.
Nicolas Mathieu, je sais pas si vous appréciez cet écrivain, disait récemment que, enfin, il s'énervait contre l'idée d'une littérature qui serait une consolation ou une réparation. J'évoquais un petit peu ça au début de l'émission. Mais est-ce que pour autant, on peut pas assumer ce mot, mais en un sens supérieur? C'est-à-dire, montrer que par rapport à certaines choses, nous ne sommes pas seuls, montrer que par rapport à... Voilà, c'est pas pour voir les choses positivement, c'est juste pour comprendre qu'on n'est pas seul dans cette barque-là.
De toute façon, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas un objectif, et si vous voulez... Pourquoi il faut écrire ? Il faut écrire parce que vous dites, mais bon sang, mais il y a ça là, c'est évident. Il y a ça, et ça c'est comme ça. Et pourquoi ce n'est pas écrit nulle part. Et donc vous dites, ok, moi je vais le faire. Bon. Mais il y a une exigence à le faire parce que vous savez que c'est commun. Mmh. Parce que ce n'est pas une chose dont vous seul souffrez de voir que la vérité, que ce qui est vrai n'est pas écrit, exposé, partagé, partageable. Donc il faut le faire. Donc c'est commun. Donc, de toute façon, je ne sais pas si c'est un but, mais en tout cas, ça a lieu. Ça se fait.
Christine Angot, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. On s'arrêtera sur cette belle phrase, ça a lieu. Il y a des choses qui ont lieu, et justement, le fait qu'elles soient niées est insupportable. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça, votre philosophie de la vie, au fond, que j'ai envie de résumer pour nos auditeurs, comme je le fais à chaque émission. J'aurais envie de dire que c'est une philosophie de la description du réel, en fait. C'est déjà bien de réussir à décrire les choses comme elles se sont passées, voilà. Il y a des choses qui se sont passées, alors on va le dire, on va déjà essayer d'être à la hauteur, finalement, de ce réel, non pas à analyser, non pas commenter, non pas décrypter, non pas tenir un discours sûr, mais quasiment montrer ce que ça a été, parce que
et peut-être ce que c'est encore.
Exactement. Toute votre philosophie me fait penser à cette phrase géniale du grand psychanalyste Viktor Frankl qui dit que la plus grande erreur qu'on ait dans sa tête, c'est de penser que le passé, c'est du passé. Christine Angot, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud, à la réalisation Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Fabrice Desmaz. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h sous le soleil de Platon.